Radio Capi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Après l'ouverture hier, l'heure est à la poursuite du regroupement et de l'enregistrement de toutes les dernières délégations présentes à Nairobi au troisième round du processus pour la paix dans l'est de la RDC. Le désordre semble se réinstaller dans le centre-ville de Lubumbashi au lendemain de la nomination de nouveaux dirigeants nommés sur ordonnance présidentielle à la mairie et aux différentes communes. Jean Gandou nous en parle dans cette édition du journal. Enfin, l'Université Avenir du Congo de Béni organise une première édition du festival culturel éducatif. Objectif, entre autres, initier le jeune à relever les défis culturels et éducatifs. Pour en parler, nous recevrons dans cette édition du journal comme invité prêtre Jean-Baptiste Kambalé Mugiri, recteur de cette institution. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Troisième ronde du processus pour la paix dans l'est de la RDC, après la cérémonie d'ouverture des travaux qui s'est déroulée hier au Safari Park Hotel de Nairobi, l'heure est maintenant à la poursuite du regroupement et de l'enregistrement de toutes les dernières délégations présentes à Nairobi. Les débuts des travaux en groupe et sous-groupe est prévu pour demain mercredi. Les détails avec notre envoyé spécial à Nairobi, Martial Papimukeba.
Jusqu'à ce mardi, l'organisation finalisait encore les regroupements et l'enregistrement des dernières délégations. Cela sera suivi par une session de mise en confiance entre la facilitation du processus, la délégation officielle de la RDC, les représentants des groupes armés, de la société civile, des associations des femmes, ainsi que des leaders communautaires. Selon des sources de l'organisation, ce mercredi devraient intervenir les travaux en groupe et sous-groupe définis par la facilitation. Lors de la cérémonie d'ouverture, les jalons ont été posés. Les présidents de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, les présidents de la RDC, de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda, ainsi que les facilitateurs du processus de Nairobi, ont exhorté les délégations présentes à Nairobi d'œuvrer de bonne foi pour le retour de la paix. Des sources de la facilitation disent qu'au cours de ces rounds, il n'y aura pas de nouvelles consultations, contrairement à Nairobi 1 et Nairobi 2. La facilitation attend donc de faire de ce troisième round l'étape des solutions et des actions concrètes pour faire taire les armes. Depuis Nairobi, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis les 87 délégués de 11 groupes armés de la société civile et des communautés ethniques du Nord Kivu, Sud Kivu et du Maniema, restés bloqués à Goma depuis 4 jours, ont commencé à rejoindre Nairobi depuis ce mardi. Deux aéronefs petits porteurs ont été affrétés par l'organisation pour récupérer ces deux délégués en deux groupes. Le premier groupe d'au moins 37 personnes a décollé ce matin de Goma pour Nairobi, tandis que le deuxième groupe devrait rejoindre la capitale kényane d'ici la fin de la journée. Entre-temps, la MONUSCO réaffirme son engagement et son soutien aux efforts diplomatiques et politiques pouvant aboutir à une résolution pacifique de la crise dans l'est de la RDC. La mission onusienne en RDC s'est dit disposée à consulter toutes les parties prenantes au mini-sommet de Luanda afin d'obtenir les clarifications nécessaires. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse publié lundi 28 novembre. Détail avec Emmanuel Elamejua Kabedi.
À travers ce communiqué, la MONUSCO salue la tenue du mini-sommet de Luanda ainsi que le rôle joué par chacun des acteurs impliqués pour le retour de la paix en RDC. Elle encourage la poursuite des efforts diplomatiques concertés qui ont abouti aux décisions fermes pour une cessation des hostilités et le retrait du M23 des zones occupées. Ainsi, la MONUSCO affirme avoir été officiellement saisie par le gouvernement congolais pour l'appui à la mise en œuvre des décisions adoptées dans le cadre des processus de paix de Luanda et de Nairobi. À cet effet, la mission réitère son soutien à la mise en œuvre de toutes les dispositions relevant de son mandat. Elle est également prête à mettre en place un mécanisme de coordination avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elle soutient aussi l'opérationnalisation rapide du mécanisme de vérification ad hoc établi dans le cadre de la feuille de route de Luanda et poursuit par ailleurs son appui au processus de Nairobi. La mission reste mobilisée pour la protection des civils, avec une approche combinant la protection physique, Cela, à travers ses composantes en uniforme et les efforts civils visant à l'engagement politique et l'amélioration de l'environnement de protection.
Pendant ces temps, au Nord Kivu, sur le terrain, les violents affrontements ont été signalés ce mardi matin dans la localité de Kishishi. C'est dans le groupement de Bambo, chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. Selon de nombreuses sources locales, ces affrontements opposeraient les rebelles du M23 aux groupes armés, notamment les FDLR et les miliciens Nyatura. Ces sources craignent la transformation de ces conflits armé en une escalade de violences tribales dans la zone. Les détails avec Blaise Shindani.
C'est entre 6h et 9h locales ce mardi que des tirs nourris ont été entendus dans la localité de Kishishi. Certaines sources affirment que les rebelles du M23 tenteraient de reprendre le contrôle de cette localité qu'ils ont perdue la semaine dernière à l'issue des affrontements contre les FARDC, les Mai Mai et les FDLR. Des sources diversifiées croisées dans la zone précisent que les rebelles du M23 font face aux attaques des groupes armés locaux et les FDLR sur plusieurs fronts depuis une dizaine de jours. Il s'agit des Mai Mai APCLS, de Janvier Karahiri et des Nyatura SMC, des Domi, qui sont déployés présentement entre Kichanga et Shumba, groupement des Bishusha, pour, selon ses sources, empêcher les rebelles de faire leur assaut sur Kichanga. D'autres factions Nyatura et les Mai Mai, notamment Kabidon, Aferes de Jetem, qui mènent des attaques répétées contre les rebelles entre Katale et Biruma sur la nationale numéro 2, territoire de Rutshuru, et entre Nkwenda et Kisharu dans le groupement de Binza. Du coup, certains défenseurs des droits humains craignent que ce conflit ne se cristallise en violence tribale. C'est par exemple sur l'axe Bouiza, Kichanga, Burungu, où les membres de certaines communautés qui seraient pris pour cible des miliciens se déplacent déjà en masse.
Et puis, en territoire de Beni, l'hôpital général de Kalungutta fonctionne difficilement à cause de la persistance de l'insécurité dans la région. Depuis la semaine dernière, un service minimum est observé dans cette structure sanitaire qui couvre 17 km² de services de soins médicaux à la population. Pour éviter les pires, les responsables de l'hôpital général de Kalungutta plaident pour leur protection en déployant les militaires FRDC dans la zone pour la sécurité car les menaces des hommes armés ne cessent de croître. Marc Marofimbo pour des précisions.
Après les attaques perpétrées contre les centres de santé de Maboya et Kabasha, les personnels de l'hôpital général de référence de Kalungutta vit la peur au ventre. Cette structure hospitalière est à cheval entre les deux extrémités. La semaine dernière, des tracts de rebelles ont été ramassés dans la région, menaçant d'attaquer cette structure sanitaire. Pire encore, samedi dernier, une tentative d'enlèvement d'un des responsables a échoué. Sur place, un service minimum a été mis en place. Il commence à 8h et se clôture à 16h. Les personnels soignants et les malades commencent à vider la structure sanitaire. Tous les cas graves se transférer à Beni ou Butembo. N'ayant pas reçu une réponse favorable après leur rencontre avec l'administrateur du territoire de Beni, qui leur a demandé plutôt de se protéger, les personnels soignants de l'hôpital général de référence de la zone de santé rurale de Kalungutta plaident aux autorités militaires de sécuriser la région, de peur que cette structure sanitaire soit sabotée par les hommes armés, comme ça a été le cas avec les centres de santé de Maboya. Toutefois, la réunion d'évaluation se tient régulièrement avant que les mesures conséquentes soient prises face à cette situation qui laisse à désespérer. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis, il est impératif que les États qui fournissent des armes aux groupes armés qui sont frappés d'embargo soient sanctionnés. Aussi que toute coopération militaire bilatérale avec les États fournisseurs doit impérativement cesser. Déclaration du prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege. Pour lui, il est temps que le monde ouvre les yeux sur ces atrocités, que le droit international s'applique et que les responsables rendent des comptes pour mettre fin à la tragédie congolaise. Les détails de cette déclaration avec Rachel Kessembangu.
Tout en saluant les efforts de l'Angola visant à mettre fin à la violence au Nord Kivu, le prix Nobel congolais regrette que le M23 ne respecte pas les termes du communiqué du ministre sommet sur la paix et la sécurité dans la région est de la RDC. Face à cette situation sécuritaire critique, il est urgent que la chaîne d'approvisionnement en armes et en munitions du M23 soit établie et que les pays impliqués subissent la rigueur des sanctions telles qu'elles sont prévues dans la résolution 2641 des Nations Unies. Denis Mukwege aspire à ce que les conclusions du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies recommande sans plus tarder l'activation du régime des sanctions. Selon lui, il est impératif que les États qui fournissent des armes aux groupes armés qui sont frappés d'embargo soient sanctionnés. En outre, toute coopération militaire bilatérale avec les États fournisseurs doit impérativement cesser si l'on veut créer les conditions propices à la désescalade. Il appelle ainsi les Nations Unies à prendre des décisions fortes d'implémentation de ses propres résolutions et les pays influents comme la France, le Royaume-Uni et et les États-Unis à ne plus soutenir les États qui alimentent la violence et la désolation à l'est du Congo. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
La mairie de Lubumbashi et les différentes communes ont depuis le week-end dernier des nouveaux dirigeants nommés sur ordonnance présidentielle. Et depuis, le désordre semble se réinstaller dans le centre-ville. Toutes les restrictions imposées notamment aux motocyclistes et aux conducteurs des taxis et taxi-motos par les autorités sortantes ne sont pas respectées. Chacun fait ce que bon lui semble, au grand étonnement de plusieurs personnes. Jean Gandou.
Parmi les défis majeurs qui attendent les nouvelles autorités, il y a la criminalité urbaine qui semble prendre de l'ampleur dans presque tous les quartiers. Les bandits, munis d'armes à feu et d'armes blanches, sèment la terreur. Ils volent, violent et par moments tuent. Un autre défi porte sur l'insalubrité. Comme la criminalité, elle n'épargne aucun quartier, surtout en cette période des pluies où des immondices jonchent les rues et avenues, exposant la population aux maladies d'origine hydrique, dont le choléra. La présence des motocyclistes au centre-ville est donc l'épine sur la gorge de la nouvelle autorité urbaine, car aussitôt les anciennes autorités écartées, toutes les mesures précédemment prises pour assainir le centre-ville sont mises de côté et les motocyclistes sont de plus en plus visibles dans les centres-villes, vacant paisiblement à leurs occupations sans qu'ils ne soient inquiétés. Les chauffeurs de taxis et taxibus ne sont pas en reste. Eux aussi bafouent toutes les mesures prises précédemment. Il y a aussi les marchés pirates qui ont repris. Les marchandises, dont les produits alimentaires, vestimentaires et autres, sont exposés à même le sol. Parlant spécifiquement des motocyclistes, plusieurs personnes attendent la prise de fonction de la nouvelle autorité urbaine pour voir comment elle pourra mettre fin à ce phénomène, surtout au centre-ville. D'autant plus que la plupart d'entre eux sont de la même obédience politique qu'elle. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis l'Assemblée provinciale de Maïndoumbe a déclaré recevable le projet dédié budgétaire exercice 2023 présenté par le gouverneur Rita Boladula. Tous les députés présents dans la salle de plénière ont voté à l'unanimité ce budget qui s'élève à plus de 290 milliards de francs congolais. À l'occasion, Rita Bola a indiqué que ce budget va s'étaler sur 10 axes prioritaires afin de répondre aux ententes de la population pour son développement social et économique. Irène Bouma.
Estimé à plus de 290 milliards de francs congolais, ce budget de la province du Maïndoumbe pour l'année 2023 a connu un taux d'accroissement d'au moins 97% par rapport à celui de l'année dernière qui s'élevait à plus de 147 milliards de francs congolais. Rita Bola, gouverneur des provinces, qui l'a présenté lundi devant les députés provinciaux, a indiqué que ce projet de budget budgétaire qui est présenté en équilibre en recettes et en dépenses est concentré sur 10 axes prioritaires dont la restauration de la paix et de la sécurité, la promotion de l'agriculture et le développement durable de la province pour le bien-être de la population. Rita Bola.
Donc le développement passe par la route, le développement passe par l'éclairage public, la paix, la sécurité, l'autonomisation de la femme rurale, elle peut compter sur nous pour le champ et pour autre chose, l'éducation, le développement durable, l'économie circulaire entre territoires et puis l'eau et l'énergie. Nous allons nous étaler sur ces 10 axes afin de satisfaire notre population. Nous avons l'armée dans tous les territoires de Kwamout et la police. Nous essayerons de rétablir la paix.
Rita Bola promet de faire des sommiers afin de mobiliser les ressources nécessaires pour la matérialisation de tous ces programmes. Elle appelle donc la population du Maïndoumbe à lui faire confiance. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, lancement ce lundi 28 novembre à Bukavu de la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune. Seules les 3 zones de santé urbaine de Bukavu sont concernées dans un premier temps. Mais l'objectif est de vacciner toutes les personnes de 9 mois à 60 ans dans les 34 zones de santé du Sud Kivu. La cérémonie de lancement officiel a été présidée par le ministre provincial de la Santé en présence des partenaires tels que l'OMS et l'UNICEF. Écoutez les précisions du docteur Joseph Matundanya, médecin coordonnateur provincial de Pève au Sud Kivu. Il est au micro de Cynthia Bachizi.
Notre pays est en risque. Il y a déjà dans nos provinces, parmi les 26 provinces, il y a des provinces qui ont notifié des cas de fièvre jaune et confirmés par les laboratoires. Il y a même des épidémies qui ont commencé à Kinshasa et d'autres provinces. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a organisé cette campagne pour les personnes de 9 mois. Jusqu'à 60 ans. Fièvre jaune, c'est une maladie qui se manifeste par des fièvres et puis accompagnée par la jaunisse et bien sûr qui est transmise par le moustique qu'on appelle Aedes. Il n'y a pas un traitement approprié contre la fièvre jaune. Raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé met en place le vaccin contre cette maladie parce que quand vous êtes atteint par la fièvre jaune, le risque de mortalité est élevé. Donc c'est la vaccination qui est le moyen le plus efficace pour lutter contre cette maladie.
Actualité internationale.
Les avocats du Tchad ont annoncé lundi cesser toute activité à partir de ce mardi pendant toute la durée d'un procès de masse de 401 personnes arrêtées pendant et après une manifestation contre le pouvoir réprimé dans le sang le 20 octobre dernier. Et puis la Chine a annoncé ce mardi qu'elle allait accélérer la campagne de vaccination des personnes âgées contre le virus COVID-19. La Commission nationale de la santé du pays s'est engagée dans un avis à accélérer la hausse du taux de vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans et à continuer d'augmenter le taux de vaccination des personnes âgées de 60 à 79 ans, rapporte l'AFP.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le recteur de l'Université Avenir du Congo de Beni qui va nous parler de la première édition du festival culturel éducatif organisé par son institution universitaire dans le cadre d'initier les jeunes à relever les défis culturels et éducatifs, mais surtout leur participation dans la consolidation de la paix. Le prêtre Jean-Baptiste Kambale Migiri s'entretient ici avec Marc Marofimbo. Suivez.
Alors, monsieur le prêtre Jean-Baptiste Kambale Migiri, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'organisation de ces festivals culturels éducatifs?
Nous avons organisé le festival éducatif dénommé Éduc'Assomption, un festival qui est organisé sous l'initiative de l'Université de l'Assomption au Congo à Beni. Et ce festival a comme objectif la promotion des quatre valeurs. La première valeur, c'est la science. La deuxième valeur, c'est la culture. La troisième valeur, c'est la solidarité. Et la quatrième valeur, c'est la paix.
Un festival culturel éducatif, peut-on avoir une idée sur les catégories des participants?
Évidemment, c'est un festival éducatif et nous croyons que toute la communauté est éducative. Et donc nous partons des petits enfants, les enfants de l'école maternelle participent dans ce festival. Ils sont d'ailleurs, ce sont eux qui ont ouvert le festival avec leur actuation. Il y a les enfants de l'école primaire, les jeunes de l'école secondaire et puis les étudiants. Ça, c'est dans la sphère de l'enseignement. Mais il y a aussi des parents parmi lesquels on a des acteurs, des musiciens. Nous avons fait venir, par exemple, les musiciens des clubs culturels de Yiramirembe. Il y a eu Télésphore qui chante l'éducation, comment se comporter comme préfet de l'école et consort, la morale à l'école, ainsi de suite. Nous avons fait venir aussi des artistes modernes qui sont des ressortissants de l'école, mais qui ont appris à cultiver leur talent à partir des intuitions culturelles, des intuitions artistiques, pour arriver à être des grandes stars de notre société. Là, je vous parle, par exemple, du musicien Demba, qui participe à ce festival comme un des partenaires très importants. Et donc, nous associons toutes les forces de développement de l'intelligence, de la culture, de l'art, pour essayer de ramasser tous les efforts envers la solidarité et la consolidation de la paix.
Aujourd'hui, c'est la première édition. Oui, alors, quelles sont vos projections à venir, partant de cette première édition du Festival culturel éducatif?
Évidemment, nous sommes à la première édition. Il y a des objectifs que nous nous fixons à chaque édition. Là, c'est l'objectif principal, la promotion de la science, de la culture, de la solidarité, de la paix. Ça, c'est l'objectif, on dirait le sceau de ce festival. Mais chaque édition a ses objectifs conformément aux besoins de chaque année. Cette année, nous avions comme objectif spécifique 4, notamment la célébration de l'inauguration officielle de l'implantation de l'Université de l'Assomption au Congo à Beni. Mais nous avions aussi 3 autres objectifs. Le deuxième objectif, c'était la célébration des résultats positifs des jeunes que notre centre de psychologie et de spiritualité a accompagnés pour se préparer aux examens d'État et qui ont réussi énormément. Donc, c'était une occasion de célébrer ces résultats. Le troisième objectif, c'est quand même participer à la paix à travers la création d'un espace de détraumatisation, c'est d'éliminer un peu de stress, non? C'est libérer de ce stress. C'est une façon de collaborer à la consolidation de la paix. Et puis, l'aspect de la solidarité, nous considérons que le manque de paix dans notre région a créé beaucoup d'infrustrations chez beaucoup de jeunes qui ont perdu leurs parents, leurs champs, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de jeunes qui voudraient venir étudier chez nous, mais qui n'ont pas comment arriver. Ou voudraient aller étudier même ailleurs. Ils ne savent pas comment y parvenir parce que les conditions matérielles sont déjà quasiment limitées. Et donc, nous sommes en train de créer une bourse de solidarité, une bourse que nous appelons bourse de solidarité avec les victimes des massacres. Et sur ces jeunes-là, nous en avons déjà à l'université depuis l'année passée pour les soutenir, mais il faut des contributions. C'est ici l'occasion d'inviter toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté, de venir nous soutenir dans cette initiative. L'initiative notamment du festival éducatif pour la promotion de la science, de la culture, de la solidarité et de la paix. Et puis l'initiative de la constitution d'une bourse pour appuyer les jeunes victimes des massacres, ceux qui ont perdu leurs parents ou leurs champs, qui ont besoin d'être soutenus pour pouvoir étudier. Parce que nous sommes sûrs que en faisant étudier ces jeunes-là, nous aurons contribué énormément à la diminution des facteurs déstabilisateurs ou multiplicateurs de l'insécurité.
Monsieur le prêtre Jean-Baptiste Kambal-Lemieri, je rappelle que vous êtes le recteur de l'université Avenir du Congo de Beni. Nous vous disons merci.
Merci beaucoup à vos journalistes.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.
Okapi Sport.